Il y a actuellement, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 472 travailleurs de la santé qui ont été testés positifs à la COVID et qui sont absents du travail. Alors, vous imaginez la pression que ça met sur les autres employés du réseau. Et hier, lors de la conférence de presse du ministre de la Santé, on avait malheureusement une seule question qu'on pouvait poser au ministre parce que j'aurais aimé lui poser la question. Pourquoi, avec toutes les mesures de sécurité qu'on avait prises pour faire face à la deuxième vague, pourquoi il y a tant d'employés du réseau de la santé qui sont donc contaminés par le virus? Je comprends qu'ils sont en première ligne, mais on a mis toutes les mesures en place, nous avait-on dit. Hier, Gaston Langevin, qui représente les employés de catégorie 2 du réseau de la santé, n'avait pas de réponse pour nous et nous disait c'est peut-être dans les systèmes de ventilation qu'est le problème. On en parle également ce matin avec Mme Julie Bouchard. Mme Bouchard, elle représente là, les infirmières, les inhalothérapeutes, tout le personnel clinique dans le réseau de la santé régionale. Bonjour Mme Bouchard.
Bonjour.
Si je vous pose la question à vous aussi, pourquoi il y a autant d'employés du réseau actuellement qui attrapent ce maudit virus?
Bien, pour ma part, j'ai l'impression que c'est multifactoriel. Dans un premier temps, je croyais dès la première vague et je crois encore fortement que le port du masque 95 sera essentiel pour les professionnels en soins qui sont vraiment là très près de la clientèle qui ont des soins très aigus à donner. Alors, selon moi, au niveau du couvre-visage, la protection n'est pas adéquate. Dans un deuxième temps, il y a aussi le fait que nous sommes en contamination communautaire. Alors, à ce moment-là, lors de la première vague, je l'expliquais encore dernièrement, on attrapait, si on peut dire, le virus dans notre milieu de travail, qui était principalement, au CHSLD de la Colline, alors que maintenant, on arrive dans nos salles de collation, on arrive au poste de travail ou encore très de la clientèle. Et on peut être contagieux 48 heures à l'avance. Donc, automatiquement, on n'est plus sujette à le transmettre à nos collègues. Et dans un troisième temps, il y a la fatigue. Lorsqu'on est fatigué, épuisé, évidemment que notre système immunitaire est encore plus fragilisé. Alors, tout ce qui est de virus ou microbes va se coller sur nous encore plus facilement et notre système de défense va être encore plus faible. Donc, on va avoir plus de difficultés à le combattre. Donc, selon moi, là, c'est vraiment multifactoriel là, dans ce cas-là.
Si je regarde les chiffres, ça semble pas vouloir diminuer beaucoup là, dans le réseau de la santé. Là. Il y a jusqu'à maintenant 111 cas à l'hôpital de Chicoutimi, il y en a 119 à l'hôpital d'Alma, 70 au CHSLD Isidore Gauthier, puis là, au CHSLD Jacques-Cartier, c'est 82 cas.
Oui, c'est assez épouvantable de voir ça. C'est triste aussi de voir à quel point nous étions pas prêtes à faire face à une pandémie autant lors de la première que de la deuxième vague. Le réseau de la santé était beaucoup trop fragilisé avec les décisions du passé. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point justement notre système de santé est malade. Et si nous avions pris de meilleures décisions, peut-être qu'on aurait eu moins de difficultés à y faire face. Peut-être que il y aurait pas autant de restrictions pour s'assurer que si on en vient à avoir un gros boom au niveau des hospitalisations, qu'on soit capable d'avoir le personnel nécessaire pour donner des soins de santé sécuritaire et de qualité à la population. Donc, on n'en serait probablement pas là. Alors, c'est là qu'on se rend compte à quel point pour l'avenir, pour le moyen et le long terme, il va vraiment falloir que le gouvernement prenne des décisions et dise « nous investissons dans le système de santé, nous investissons dans les types d'emplois qui donnent des soins directs à la clientèle puisque c'est essentiel. » Et non seulement c'est essentiel, mais c'est un choix de société que l'on a fait pour ne pas faire la différence entre les riches et les pauvres. Tout le monde a le droit d'avoir des soins, tout le monde a le droit d'avoir les examens requis. Alors maintenant, c'est au gouvernement qui a le pouvoir de le faire et c'est à lui de prendre les décisions et de mettre des choses en place pour nous donner à nous, les professionnels en soins, la capacité de remettre le réseau de la santé.
Il n'y a pas longtemps, vous l'avez demandé, le N95, hein? Quelle a été la réponse?
La réponse est toujours non. La réponse est toujours non parce que c'est sûrement pour des questions monétaires. On sait qu'un N95 coûte aux alentours de 15 $ le masque, alors qu'un masque de procédure chirurgicale, comme on connaît, c'est entre 15 et 25 sous le masque. On sait aussi qu'au niveau des masques N95, c'est vraiment là lorsque il y a des MGA, là, des traitements vraiment invasifs. C'est lorsqu'il y a une intubation, des choses comme ça, que selon l'INSPQ, c'est nécessaire de l'avoir. Pourtant, on ne comprend pas pourquoi ça n'a pas été essayé quand même. Donc, c'est rendu ce qu'on est rendu. Il aurait très bien pu dire, écoute, on va l'essayer, on va voir qu'est-ce que ça va faire. Si ça ne donne rien, ça ne donnera rien, mais au moins on l'aurait essayé. Alors, on s'entête de ne pas vouloir l'utiliser. Et de plus, il est extrêmement difficile à se procurer ces temps-ci. Donc, au niveau de la marchandise, là, il y a quand même des réserves qui diminuent. Donc, c'est probablement une cause aussi pour laquelle on ne veut pas nous le procurer là, en tout temps dans les milieux de santé.
Bon. À 472 employés du réseau de la santé là, qui sont atteints, il est où le seuil là, où là, ça va craquer de tout bord, de tout côté?
On l'a déjà atteint. On l'a déjà atteint. Du moment où que je l'avais dit aussi il y a quelques semaines, du moment où on va atteindre 20 hospitalisations, c'est sûr et certain que le bordel va pogner. Le bordel est pogné depuis maintenant un mois. On dit souvent, lorsqu'on a des discussions avec la direction du SUS, on va frapper le mur et ça, c'est si on ne l'a pas déjà frappé. Avec toutes les absences, autant que ce soit pour les cas de COVID que pour des absences maladies là, psychologiques ou encore physiques, ou les retraits préventifs, les immunosupprimés, c'est impossible d'être capable de donner des soins de qualité sécuritaire. C'est impossible. Puisqu'on a déjà fait du délestage de soins un petit peu, donc il y a des chirurgies qui sont reportées, il y a des rendez-vous dans les cliniques externes qui sont reportées, il y a certaines choses là, qui ont été mises sur pause. Et malgré ça, on n'y arrive pas. Le temps supplémentaire obligatoire est omniprésent là, plus que jamais dans les secteurs qui sont en éclosion. Les professionnels en soins sont déplacés d'une unité de soins à l'autre. On leur demande encore de faire plus avec moins de personnel. On les traite encore avec les arrêtés ministériels. Donc, vous comprendrez que ce n'est pas seulement la surcharge de travail qui est présentement difficile dans le réseau de la santé, mais il y a également une surcharge mentale où les professionnels en soins ne peuvent pas profiter des moments en famille présentement parce qu'elles sont requises au travail pratiquement 7 jours sur 7 à la hauteur de 16 heures de travail par jour. On vient nous dire on va être obligé de mettre des 12 heures parce qu'on n'a plus assez de personnel, mais pour vous autres, ils font déjà 16 heures en ligne. Quelle est la différence à part de dire on est obligé de faire des 12 heures? Elles font déjà 16 heures en ligne, ce qui est inacceptable. J'ai justement parlé avec une infirmière pas plus tard qu'hier soir, très tard en soirée d'ailleurs, et en 5 jours de travail, elle a effectué 80 heures.
Eh mon Dieu!
Donc, vous comprendrez qu'après 80 heures de travail, on peut lui demander quoi à partir de là? Absolument rien. La seule personne qui lui demande présentement, c'est son garçon. C'est tout ce qu'il veut. C'est sa maman à la maison, alors qu'elle, il faut qu'elle travaille pour s'assurer que les patients ont tout ce qu'il faut.
Ouais, c'est triste de vous entendre. Ce matin, là, je savais que c'était pas facile, mais là, le portrait que vous nous tracez là est épouvantable.
C'est très triste. Très, très triste et on a vraiment hâte de passer à autre chose. Et d'ailleurs, quand le ministre Dubé est passé dans la région hier, j'ai écouté, comme tout le monde, la conférence de presse et j'espérais vraiment, du plus profond de mon cœur, que M. Dubé arrive avec des solutions, des mesures incitatives pour les gens dans la profession qui nous disent, écoutez, on sait comment c'est difficile présentement. Nous avons mis sur pied telle affaire pour essayer de faire venir des professionnels en soins d'ailleurs pour vous donner un coup de main. Nous avons des solutions, nous avons ça à vous proposer. Tout ce qu'on s'est fait dire, c'est continuer de porter le masque et lavez-vous les mains, on va s'en sortir. Bon, ben coudonc. Je pense que le message est clair depuis le début qu'on le fait et pourtant, on est la pire région au Québec, donc on a hâte d'avoir une petite couleur d'espoir à quelque part.
Madame Bouchard, une pensée pour tous ces gens qui travaillent dans le réseau de la santé. Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.
Julie Bouchard est la présidente donc des infirmières, infirmiers, inhalothérapeutes, tous les professionnels qui donnent des soins aux malades dans le réseau de la santé régional.